Mentor Net numéro 46. Gérer le changement dans les vieilles églises. Par George Patterson. Un mot prophétique de Gordon MacDonald reste toujours à jour 10 ans après. Il a dit, une maxime avertir, si le changement au-dedans d'une organisation se produit plus lentement que le changement du dehors, alors cette organisation se trouve en agonie. Une pensée effrayante. Votre église ou organisation fonctionne-t-elle, tout comme elle a fait depuis plus d'années, que vous ne vouliez admettre? Beaucoup d'églises perdent leur influence, et ne survivront pas une autre décennie. Les sermons ne touchent souvent pas aux réalités auxquelles les gens doivent faire face dans le monde actuel. Cependant, il y a un côté lumineux. Notre plus jeune génération a un si grand faim du spirituel. Elle se trouve si avide de trouver une communauté de support. Et elle s'avère si curieuse de voir comment l'Évangile parle à leurs questions, qu'elle fait naître de nouvelles églises sans se soucier de retoucher les vieilles. Elle est une vache sacrée et défie nos idées de piété. Elle nous en rend fous. Notre première impulsion est de la critiquer, de la décourager et de la condamner parfois. Toutefois, en dépit de beaucoup d'erreurs, elle y réussit. Elle nous incite à voir que le plus grand de tous les directeurs du changement, c'est l'Esprit Saint, celui qui a effectué le changement au jour de Pentecôte. Lors de la Réforme, au cours du grand mouvement de missionnaires, et dans les nombreux mouvements d'implantation d'églises qui se produisent de nos jours. S'il y a quelque chose que nous les plus âgés devons faire, c'est de nous écarter un peu, applaudir, entraîner et prier en faveur de cette nouvelle génération de penseurs, de communicateurs et de bergers chrétiens. Faisons comme Moïse envers Josué, Élie envers Élisée et Anania envers Saul. Votre congrégation ou organisation a-t-elle besoin de changement? Si oui, alors laissez-la y progresser par le processus à 6 étapes communes aux efforts menant à un changement soutenable. Ce ne sont pas toujours des étapes discrètes qui se produisent en ordre fixe. Certaines étapes peuvent se recouvrir. La chose importante est d'amener les croyants par toutes les étapes. Un manque de ce faire risquera de frustrer vos efforts. Ces étapes comprennent les suivantes. 1. Avertir les gens des nouvelles idées. 2. Mettre lumière sur les aspects intéressants. 3. Stimuler la discussion. 4. Demander un choix formel. 5. Mettre en pratique un plan. 6. Faire les ajustements nécessaires. Voyons ces choses de plus près. Étape 1. Directive pour avertir les croyants de changement. Au début et pendant le processus entier, demandez à Dieu sagesse et confiance, et il vous les donnera. Jacques 5. Analysez le problème avant de le résoudre. Bien des églises ne font pas de changement pour résoudre un problème dévastateur. Parce que personne ne l'a remarqué, ou que personne n'a le courage de recommander un changement. Une manière de détecter des échecs estropiants est de considérer si votre église pratique efficacement tous les ministères que le Nouveau Testament exige. Soulignez l'évident. Quel est exactement le besoin de changement? Énoncez les faits à plusieurs reprises, d'une manière tellement facilement à comprendre que la solution s'avère claire, même évidente en soi. Étape 2. Directive pour réveiller l'intérêt en aidant les croyants à penser aux avantages. Racontez des exemples d'autres églises ou organismes qui ont fait le changement, sans cacher les problèmes auxquels ils ont dû faire face. Demandez à ceux pour qui le changement importe le plus d'en discuter avec leurs amis. Tenez des séances si nécessaire. Défiez les croyants d'une manière positive. Par l'exemple, vous pourriez demander à des croyants plus âgés de faire un sacrifice pour maintenir leurs enfants et petits-enfants dans le royaume de Dieu. Là où il y a un conflit au sujet des questions non essentielles, l'Écriture exige du plus fort de différer au plus faible pour éviter de donner offense. Les conflits touchent souvent à la musique et au type de réunion. Des millions de jeunes gens ont abandonné les églises de leurs parents en raison du manque chez eux-ci d'obéir à cette règle énoncée en Romains chapitre 14. Étape 3. Directive pour encourager la discussion en parlant du temps, de l'argent et des coûts de la résistance. Évitez la tentation de ne rien faire que prêcher sur un changement nécessaire. Stimulez l'intérêt en posant des questions sur le besoin particulier. Pourquoi ce changement devrait-il se produire? Expliquez-en les avantages. Quand les gens citent des problèmes qui pourraient résulter de changements, aidez-les à peser les conséquences potentielles des problèmes contre les avantages du changement. Étape 4. Directive pour faire un choix formel en mettant aux croyants de se tenir d'accord avec leur chef. Confirmez qui est-ce qui mettra en pratique le changement ou dirigera une église, cellule ou ministère nouveau. Parlez avec les membres du troupeau pour identifier ceux qui sont disposés à y aider. Ne construisez pas un avion rapide ultra-léger pour constater après le fait que personne ne veut le piloter. Rechercher de nouveaux chefs et ouvriers potentiels plutôt que d'en surcharger les plus anciens. Pour mettre sur pied de nouveaux ministères, des cellules ou des églises filles, laisser les chefs plus expérimentés servir en mentor aux plus nouveaux. Dans un environnement de la liberté et de l'encouragement, le chef devrait lui-même modeler ceci. Étape 5. Directive pour mettre en application le changement en planifiant les détails et mettant en œuvre le plan. Projeter de petites étapes faciles. Placer les pierres de marche assez proches pour que personne ne tombe dans l'eau. Permettez que les ouvriers voient du progrès dans de petits incréments mesurables. Progressez avec les progressifs. Ne poussez pas les gens à faire ce qui ne leur intéresse pas. Trouvez ceux qui veulent faire le changement ou veulent lancer quelque chose de nouveau. Travaillez avec ceux-ci. Et laissez les autres se reposer dans des pâturages vers près des eaux tranquilles. Plus tard, quand tous verront que le Seigneur est à l'œuvre dans le nouvel effort, plusieurs des croyants passifs embrasseront le changement. Concentrez publiquement sur un changement voulu jusqu'à ce que le troupeau l'embrasse. Par exemple, si vous avez récemment lancé des cellules, lesquelles sont des églises minuscules au sein d'une plus grande, alors vous devez garder chaud blanc l'intérêt des gens. Une façon de faire ceci dans une église de cellules est d'interviewer brièvement, au cours de grandes réunions, des personnes qui ont éprouvé des victoires dans une cellule. Ce peuvent être de nouveaux croyants, des gens qui ont été guéris, ou des personnes qui ont vaincu l'abus de drogue. Étape 6. Directive pour s'adapter aux défis inévitables en faisant des ajustements réussis. Gardez en équilibre le changement et la stabilité. Maintenez les aspects statiques et dynamiques du corps de Christ. La plupart des personnes perdent l'intérêt au changement, non seulement quand elles suivent l'ornière, mais également quand le changement est exagéré ou quand des changements sont faits trop souvent. La croyance et les objectifs à long terme devraient rester statiques, immuables, tandis que les méthodes, buts mensuels et structures devraient être maintenues dynamiques, régulièrement mises à jour ou même remplacées. Si vous ne pouvez pas provoquer un changement nécessaire de votre église, alors ne craignez pas d'entreprendre une œuvre nouvelle. Pensez à une multiplication positive plutôt qu'à une division négative. Bien des chefs d'église ont convenu que certains membres préféreraient un différent genre de vie en assemblée ou un modèle très différent de culte. Et donc ont encouragé une église fille ou des cellules filles à naître avec l'appui et l'encouragement d'une congrégation mère.